Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Jean-Philippe Dugoin-Clément, Valérie Pécresse est candidate à sa réélection. Elle a été élue en 2015. Quel bilan global faites-vous de son action à la tête de la première région de France? Quelles ont été ses principales réussites selon vous?
Un bilan extrêmement fort, extrêmement dense, extrêmement important. La région Île-de-France a été remise sur des bons rails, a été remise en état de pouvoir fonctionner, de produire du service public au service des Franciliens. La première chose qui a été faite, ça a été un redressement économique. Nous étions une région qui n'investissait plus, qui croulait sous les frais de fonctionnement. Nous sommes la seule région de France à avoir diminué de manière nette nos dépenses de fonctionnement, ce qui nous a redonner des capacités d'investissement, d'un investissement extrêmement lourd pour rattraper le retard d'un manque d'investissement pendant 20 ans dans les transports, le retard d'investissement pris dans les lycées avec un programme de rénovation et un PPI, un plan pluriannuel d'investissement de construction de nouveaux établissements extrêmement ambitieux. Ça a été une action en matière environnementale particulièrement forte puisque nous avons fait de l'environnement un domaine et une politique complètement transversale qui couvre l'ensemble de nos champs d'action et le plan de transition écologique voté par la région en 2019, c'est 10 milliards d'euros pour les années 2020 à 2024, plus de 2 milliards d'euros par an qui sont investis par la région, plus d'un euro sur deux dépensé par la région Île-de-France l'est pour la transition écologique et ça a été notre grande priorité. Et puis la région Île-de-France, ça a aussi été l'occasion d'investir sur une compétence non obligatoire mais qui était prioritaire pour les Franciliens, c'est la sécurité pour tous les Franciliens, c'est un renforcement de la sécurité dans les transports, c'est un accompagnement des communes qui doivent faire face au désengagement de l'État et qui doivent embaucher des polices municipales, développer de la vidéoprotection parce que l'État ne le fait plus, le fait de moins en moins. Et puis dernière chose, moi, je ne peux pas ne pas parler de ce que nous avons mené depuis un peu plus d'un an maintenant pour essayer d'accompagner les Franciliens face aux carences de l'État dans le cadre de la crise de la Covid. Ça a été dans un premier temps l'apport de masques, l'apport de tests de manière massive, l'apport d'aides financières pour les communes pour leur permettre de tester, d'accompagner l'effort sanitaire national. Ça a été un effort exceptionnel en faveur des entreprises au travers du fonds résilience. La région a contractualisé avec l'intégralité des communautés de communes d'agglomération et des établissements publics franciliens, également avec la mairie de Paris et la MGP, pour venir soutenir les entreprises et les associations qui, sans l'aide de la région pour beaucoup d'entre elles, auraient déjà dû mettre la clé sous la porte. Donc, autant de sujets sur lesquels on a porté des politiques extrêmement ambitieuses, et encore je suis extrêmement loin d'être exhaustif, mais cet effort de transformation de la région qu'on a porté pendant 5 ans, eh bien, on a bien l'intention de continuer à le porter pour les 6 années qui viennent.
Alors Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous avez évoqué la question de l'écologie dans le bilan de Valérie Pécresse. Elle a fait un certain nombre de propositions pour cette campagne des régionales. Valérie Pécresse affirme qu'on peut concilier croissance et écologie. Que ferez-vous concrètement pour lutter contre la pollution si vous êtes réélu ?
Bien, on va continuer à mettre en place ce qu'on a développé. On va le faire de manière encore plus forte en termes d'investissement. Lutter contre la pollution. Vous savez, il y a 5 ans, on est arrivé en place avec la région la plus polluée de France où rien n'était fait en place. La région continuait à acheter des bus diesel. Il y a 5 ans, il y avait encore des commandes de bus diesel. Donc nous enclenchons une transition avec 100% de bus franciliens en 2024 en petite couronne qui seront des bus propres, des bus biogaz, des bus hydrogène, des bus électriques. En 2029, ce sera le cas pour toute l'Île-de-France. Nous mettons en place, nous avons mis déjà en place une aide pour les entreprises franciliennes de moins de 50 salariés pour les aider à transformer transformer leur flotte de véhicules en véhicules propres. Nous allons ouvrir cette prime et c'est un élément extrêmement fort pour tous les Franciliens qui doivent travailler dans Paris intramuros. Nous allons financer le rétrofit pour permettre la conversion des véhicules existants sur des mobilités propres. Nous poursuivons et nous investissons dans la dépollution de l'air du métro et des stations fermées. Nous allons lancer un grand programme de grande ampleur pour venir financer les communes pour permettre l'installation de systèmes de filtration et de purification d'air dans l'intégralité des communes sur ce mandat. Bien évidemment, nous continuerons à porter le financement de ce qui est le thermomètre, l'outil de savoir, l'outil de recherche qui est Air Paris. Je rappelle que la région est, après l'État, le principal financeur d'Air Paris et qu'aujourd'hui, c'est l'organisme indépendant qui nous permet de mesurer la réalité de la pollution de l'air. Je rappelle également que nous avons lancé l'année dernière, alors même que aucune norme ne l'impose, les premiers tests qui sont faits en France au travers d'Air Paris sur la recherche des particules ultra fines, dont on sait qu'elles peuvent être beaucoup plus nocives que les autres. Et puis c'est également toute une aide à la transition pour les foyers. Je vous ai parlé des mobilités, mais dans les facteurs de pollution extrêmement forts, il y a la pollution liée au chauffage. Nous avions mis en place une aide pour appeler le fonds Airbois pour permettre de convertir des chauffages, des cheminées, des foyers ouverts en foyers fermés, qui sont beaucoup moins polluants. Et là, nous allons développer une nouvelle aide pour permettre la conversion sur des modes de chauffage non polluants, quel que soit le type de chauffage individuel.
Donc, on a bien compris que l'écologie était un des thèmes essentiels de cette élection régionale. Si on veut véritablement aller plus vite pour lutter contre le réchauffement climatique, est-ce qu'il n'est pas préférable de voter pour Julien Bayou, qui se veut plus radical sur ce sujet que Valérie Pécresse?
Vous savez, Monsieur Bayou, il était élu de 2010 à 2015. Le bilan de Monsieur Bayou, c'est une région dont le plan régional de gestion des déchets a été cassé par le tribunal. Il a fallu qu'on reprenne à zéro. C'est la région la plus polluée de France qui continuait à acheter des bus. C'est la région qui interdisait le déploiement du 4G dans les lycées. C'est la région qui n'avait aucune politique en matière énergétique. C'est la région qui faisait le moins d'agriculture bio. On a triplé les espaces d'agriculture bio. C'est une région qui n'avait pas de plan alimentation. Donc le bilan de M. Bayou, en dehors d'être dans la doctrine, d'être dans le dogme, d'être dans l'affirmation, c'est un bilan qui est absolument pitoyable et déplorable.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, dans votre département de l'Essonne, quels sont les projets de la région qui concerneront directement vos administrés ?
Écoutez, des projets, on en a énormément. Il y a tout ce qu'on porte en matière environnementale, en matière de sport, en matière de culture, de développement économique. Après, notre département est concerné par le plan pluriannuel d'investissement dans les lycées, c'est-à-dire c'est de nouveaux lycées, de nouveaux établissements. Il est concerné par le développement des transports en commun, par le renouvellement des rames de RER. Il est concerné par le déploiement de la fibre. On est sur un département de grande couronne et où l'un des enjeux pour la région sur notre département, eh bien, c'est d'arrêter cette tectonique des plaques qui veut que la grande couronne s'éloigne de la petite couronne. Vous savez, toute la différence que l'on porte entre une certaine gauche qui ne s'intéresse qu'aux zones denses, qui considère que les territoires périphériques, pour prendre un mot qu'ils aiment utiliser, mais qui est odieux de mépris, ne sont que la variable d'ajustement des autres territoires, c'est qu'on considère que ces territoires de grande couronne, ils ont une valeur ajoutée. Ils ne sont pas uniquement la poubelle du Grand Paris, qui sont des territoires qui peuvent accueillir les déchets, qui ne sont pas uniquement les territoires où on peut aller produire de l'énergie qui va être consommée en petite couronne, qu'ils ne sont pas uniquement les territoires qui doivent être gelés pour permettre de protéger la petite couronne en termes de PPRI. On considère véritablement qu'il y a un devoir de solidarité entre nos territoires, entre des territoires de grande couronne qui ont une qualité de vie, qui ont un cadre de vie, mais qui souffrent d'un éloignement, qui souffrent de capacités d'impulsion économique moins fortes que ces territoires de petite couronne, mais pour autant, sans lesquels la petite couronne ne peut pas se développer. Et tout l'enjeu qu'on porte, au fond, c'est quoi ? C'est une région équilibrée, c'est une région solidaire, une région qui avance et qui travaille pour tous, qui donne autant de droits à un habitant de Prunay-sur-Essonne ou un habitant de la communauté de communes de la Basse-et-Montois qu'à un habitant de Courbevoie ou de Gennevilliers.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, de quelle manière la région pourrait-elle apporter des solutions aux personnes les plus durement frappées par la crise sanitaire qui est devenue une crise sociale? Je pense aux étudiants, les chômeurs, les familles monoparentales. Il y a déjà eu des premières annonces. Est-ce que la région va continuer à véritablement s'occuper de ces personnes?
Mais on va non seulement continuer à s'occuper de ces personnes qui sont en souffrance aujourd'hui, mais on va même aller renforcer l'action de la région, que ce soit en allant les aider directement, que ce soit en allant soutenir les entreprises pour essayer de limiter la casse, pour essayer de les aider à repartir, que ce soit au travers du soutien que nous apportons aux associations qui viennent travailler localement, aux collectivités. On est sur un plan de relance extrêmement fort et nous, on croit que l'Île-de-France pourra se remettre en marche, pourra se remettre en avant si la région investit. C'est plus d'1,2 milliard de plan de relance qui a été d'ores et déjà acté par le Conseil régional, et c'est un effort que nous allons porter de manière collective, il faut le dire aussi, parce que la région porte ses politiques de manière groupée avec l'État, avec les départements, avec les intercommunalités. Mais pour nous, la région solidaire, c'est une région qui ne laisse personne au bord de la route, et en tout cas c'est l'engagement qu'on prend. Vous savez, on est descendu extrêmement loin par rapport aux étudiants. On a été mettre en place, alors que l'État ne faisait rien, des aides pour permettre à des étudiants d'être logés, en allant réquisitionner, en allant payer des hôtels. On a été mettre en place des aides en allant rémunérer des accompagnements psychologiques pour les étudiants. On a été mettre en place des aides pour permettre des distribution alimentaire aux étudiants les plus fragiles, et autant de choses qui ne sont pas dans les compétences premières de la région, mais qu'on considère comme une évidence. La région Île-de-France, vous savez, c'est un pays de 12 300 000 habitants qui compte à la fois en France métropolitaine les quartiers les personnes les plus aisées et les quartiers les personnes les plus pauvres. Et bien fondamentalement, nous considérons que le devoir de la région, au même titre qu'il est d'assurer une solidarité entre les territoires, c'est d'assurer une solidarité entre les franciliens.
Une région solidaire, c'est par exemple la création d'une mutuelle régionale pour les personnes les plus en difficulté.
Par exemple, bien sûr, on sait qu'aujourd'hui, l'accès à une mutuelle, l'accès à une couverture soins, c'est quelque chose pour beaucoup de gens qui n'est pas touchable. Je ne vais pas revenir sur la question ou le mauvais humour descendant d'un ancien président de la République, mais le fait de disposer d'une mutuelle ou pas, eh bien, c'est quelque chose qui crée des disparités absolument colossales. Quand on parle de soins lourds, mais de soins dentaires, de soins optiques, il y a toute une série de discriminations, de différenciants qui doivent être accompagnés. Et vous voyez, moi je suis de centre droit, Valérie Pécresse est de droite, et bien je considère que chacun a le droit d'être accompagné dans sa santé, et que aller constamment dévaloriser, se moquer, caricaturer, c'est quelque chose d'inacceptable.
La crise sanitaire a montré la nécessité de relocaliser certaines productions pour ne plus être dépendant des exportations sur les produits de première nécessité. La région Île-de-France peut-elle contribuer à relocaliser la production de certains produits fabriqués donc en France, en région Île-de-France ?
C'est tout un des enjeux qu'on porte en termes de développement économique, c'est de ramener de la capacité de production, de ramener de la capacité d'industrialisation, notamment dans les secteurs régaliens, sensibles, essentiels. Nous avons d'ores et déjà accompagné des dizaines d'entreprises pour des créations, des développements, des transformations dans le domaine sanitaire et social depuis le début de cette crise. Nous allons continuer à le faire. Et vous savez, moi je crois énormément à une région qui soit attractive, parce que faut aussi avoir conscience que dans le cadre d'un programme de décroissance absolue, dans un programme où on caricature l'entreprise privée comme étant l'ennemi et le mal, comme le font Monsieur Bayou, comme le font Madame Autain, eh bien c'est pas des choses qui sont incitatives pour faire venir des entreprises privées sur le territoire francilien. Nous considérons que notre devoir, il est de venir aider l'installation de ces entreprises privées, il est de venir travailler avec elles, il n'est pas de venir les caricaturer, il n'est pas de venir les attaquer, sinon effectivement on sera dans des mots, dans des belles déclarations pour dire qu'on va réindustrialiser l'Île-de-France, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est n'est jamais le public qui a réindustrialisé. C'est le privé, quand il est accompagné par le public, qui peut permettre ce type de solution.
Audrey Pulvar, candidate de la gauche, défend l'idée d'une gratuité progressive des transports en commun, gratuité totale pour les collégiens et les lycéens dès septembre 2021, si elle est élue. Pourquoi la droite refuse-t-elle cette idée qui serait un vrai coup de pouce pour les familles ?
Ben, je remarque que la gauche le refuse aussi, parce que ce que propose Madame Pulvar dans un accès de démagogie digne de Madame Hidalgo, mais elle était à bonne école, c'est quelque chose que les Verts et Monsieur Bayrou refusent. La réalité de la gratuité des transports en Ile-de-France, c'est que la gratuité n'existe pas. Elle sera payée par les entreprises. Quand on parle de réindustrialiser l'Ile-de-France, de recréer de l'emploi, on va aller matraquer les entreprises pour essayer de compenser les pertes. On est sur une région où aujourd'hui le frein au transport et la qualité des transports et la densité des transports, et n'est pas la question du prix. Et tout le problème de la gratuité, là où c'est une fausse bonne idée, c'est que d'une part, nous allons compenser sur les entreprises pour aller financer le manque à gagner. Deuxièmement, nous investirons moins, nous aurons des transports qui seront dans l'état où nous les avons récupérés il y a 5 ans, qui ne seront plus entretenus, avec encore des caténaires sur certaines rames de RER qui datent de 1910. C'est ce que nous avons récupéré. Et quant au programme de Madame Pulvar sur cette question, moi je m'interroge de savoir ce qu'il leur restera quand ils auront fusionné tous les trois avec Monsieur Bayrou et Madame Autain.
Les établissements culturels vont pouvoir ouvrir dans quelques semaines. La culture a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Quel soutien la région peut-elle apporter au monde culturel ?
La culture, le sport, toutes les activités extérieures et d'animation, toutes les activités de vie, de loisirs, on pense également au café, au restaurant. La région injecte des aides pour les activités culturelles, pour les associations, pour les communes, pour les entreprises, pour les commerces, et on va continuer à les accompagner, à ouvrir le parachute pour essayer d'amortir le choc. Mais vous savez, il y a une chose extrêmement importante, ce qui permet aujourd'hui qu'on aille investir, par exemple, qu'on apporte une aide de 1000 euros à chaque commerçant qui le souhaite pour pouvoir ouvrir des terrasses, pour pouvoir aménager des terrasses. C'est uniquement parce qu'on a eu un effort de bonne gestion sur le début de ce mandat, en resserrant nos dépenses de fonctionnement, en réduisant notre emprunt, contrairement à ce qu'on nous avait laissé préalablement.
Dernière question, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Ce vendredi, c'est le 4e anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron. Vous avez le sentiment qu'à l'occasion de ces régionales et des élections départementales, la droite et le centre droit peuvent montrer qu'elles sont une alternative au pouvoir actuel en 2022 ?
Je l'espère, parce que si on n'est pas capable d'être une alternative, l'alternative ce sera Marine Le Pen et personne ne peut le souhaiter pour notre pays.
Merci Jean-Philippe Dugoin-Clément. Je rappelle que vous êtes maire UDI de Mennecy, vice-président de la région Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.